Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec un premier texte dans Genèse, chapitre 2, au verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Ensuite, un deuxième texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, des versets 37 à 40. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Un troisième texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, des versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et le quatrième texte, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, les sept premiers versets. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
Impossible de connaître vraiment quelqu'un sans être en relation avec cette personne. De même, impossible de connaître la parole de Dieu sans être en relation avec le Saint-Esprit, sur qui nous comptons pour comprendre ce que veut nous dire aujourd'hui. C'est lui qui nous guide et nous voulons nous fier aussi à son œuvre. Nous arrivons à notre dernière prédication de la série « L'Évangile change tout ». L'Évangile change tout, qui est donc, on a pris des thèmes inspirés du livre de Jackel Crow. Donc après avoir vu que l'Évangile change notre identité, notre histoire, notre appartenance communautaire, notre façon de faire face au péché, nos disciplines, notre croissance et notre gestion du temps, le sujet du jour sera « L'Évangile change nos relations ». L'Évangile change nos relations. Les relations sont partout autour de nous. Certains semblent en avoir beaucoup, d'autres moins. Certaines sont profondes, d'autres superficielles et passagères. En fait, tout le monde vit des relations qui peuvent être heureuses ou douloureuses, bienfaisantes ou destructrices. En fait, les relations, personne ne peut les éviter totalement. Et chacun est complètement imprégné de ces relations. Mais d'où cela vient-il? Peut-il y avoir des changements? Et comment l'Évangile les influence-t-elle? Eh bien, ce sont les trois questions auxquelles nous allons réfléchir ce matin ensemble. Voici donc le menu. Le premier point nous emmènera sur le fait que Dieu nous a créés relationnels. Mais, enfin, c'est le premier point. Deuxième élément, la transformation de l'Évangile. Et troisième point, nos relations selon l'Évangile. Premier point, Dieu nous a créés relationnels, mais Adam, le premier homme ayant jamais existé, dès son premier souffle, était en relation avec Dieu. C'est la première relation entre le Créateur et la créature. En fait, Dieu nous connaissait déjà avant de nous créer et il nous donne vie avec cette relation que nous le voulions ou non. Elle est imprimée en nous. Ensuite, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non pas que Adam n'avait pas cette relation verticale avec lui, mais parce qu'il avait besoin d'une relation horizontale avec une personne semblable à lui. Et cette relation horizontale est en fait un reflet de la relation verticale. Les relations sont des dons précieux. Les relations sont des dons précieux, des bénédictions dans lesquelles nous pouvons grandir, nous estimer, nous porter, nous encourager, nous aimer, nous guider, nous reprendre, nous féliciter, nous admirer, nous stimuler. C'est trop beau, dites-vous ? C'est pas exactement la réalité que vous vivez à chaque instant ? Pourtant, c'est ainsi que Dieu a créé les relations. Belles, harmonieuses, la conscience pure, parfaitement saine et sainte, tournée vers l'autre, cherchant le bien et la beauté. Mais, malheureusement, le péché est entré dans le monde et a rendu les relations très compliquées. Mais malheureusement, le péché est entré dans le monde et a rendu les relations très compliquées. La crédulité, l'orgueil, la jalousie, l'idolâtrie, la moquerie, la tyrannie, la haine, le dérèglement, la perfidie et tant de péchés qui ne faisaient pas partie des relations originelles sont venus compliquer nos relations. Et ces complications ont touché en fait les deux directions relationnelles hein, que nous vivons, la direction verticale envers Dieu et les relations horizontales envers les autres. Hein, ces complications ont touché les deux directions relationnelles, horizontales avec Dieu et verticales les uns avec les autres. Et le péché en fait a carrément coupé la relation verticale, car Dieu ne peut avoir de relation avec le péché. En fait, Dieu n'est que dans la relation originale sans péché, saint, pur et juste. Et le péché a coupé cette relation verticale. Nous sommes tous pécheurs. Et c'est un drame immense que l'on ne mesure que lorsque l'on comprend ce que signifie la relation originale perdu. Comment aimer Dieu? Vous avez remarqué, Jésus, quand il parle d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée et son prochain comme soi-même, est vraiment dans ces deux directions relationnelles. Comment aimer Dieu? Le péché a complètement compliqué la relation horizontale également, hein, car non seulement je suis touché par le péché, mais celle ou celui avec qui je suis en relation l'est aussi. Avez-vous déjà réussi à vivre une semaine avec quelqu'un dans une relation profonde et ouverte sans devoir gérer un conflit ou un petit problème ou avoir rencontré une frustration? Comment aimer son prochain? N'y a-t-il aucun espoir devant l'ampleur du désastre causé par le péché?
Ah, vous me voyez venir, hein?
Évidemment! Mais il y a une bonne nouvelle! C'est celle que nous aimons annoncer et enseigner ici. L'Évangile transforme tout, même les relations. L'évangile transforme tout, même les relations. Et c'est notre deuxième point, la transformation de l'évangile qui va nous y mener, justement. La croix de Christ, avec sa partie verticale et horizontale, est en fait un beau symbole du rétablissement qu'il est venu opérer dans ce monde. Hein, la croix de Christ, avec sa partie verticale et horizontale, est un beau symbole du rétablissement qu'il est venu opérer dans ce monde. La croix de Christ est venue rétablir la relation verticale perdue avec Dieu. Il l'a rétablie, en fait. Et restaurer les relations verticales entre les hommes, c'est l'espoir de pouvoir vivre les deux plus grands commandements qu'il nous a donnés. Et je vais vous lire un texte biblique qui exprime assez clairement cette restauration verticale et horizontale. Vous pouvez prendre vos Bibles pour les tourner dans 2 Corinthiens 5, un texte que nous pouvons avoir par cœur tellement il est fondamental. Je l'aime beaucoup, vous l'avez déjà entendu de ma part. 2 Corinthiens 5. Commence par le verset 17 qui parle d'une transformation, parce que Dieu transforme, qui dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. » La relation verticale, réconciliée avec lui. « Par Christ qui nous a donné le service de la réconciliation. » Réconciliation horizontale. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, vertical, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, horizontale. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, horizontal, comme si Dieu exhortait par nous, vertical. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu, relation verticale. Comment être réconcilié avec Dieu? Écoutez, ça c'est une question que si l'on vous pose, vous devez pouvoir répondre. Si vous êtes dans la foi, vous êtes chrétien, vous êtes témoin, vous êtes disciple du Seigneur. Donc si on vous dit, mais comment être réconcilié avec Dieu? Que dites-vous? Vous me direz avec le micro là. Hein, je vous propose une façon de le voir. Hein. Il y a plusieurs éclairages, mais c'est toujours le même but. Eh bien, en acceptant que nous sommes en révolte contre lui, ne vivant pas parfaitement selon la loi de notre Créateur. Ça, c'est une première chose. En acceptant, en reconnaissant notre faute quelque part, en regrettant ce péché, parce qu'on peut bien le reconnaître, mais en le regrettant vraiment et en recevant sa solution pour nous en délivrer, le don de son Fils à la croix, où il a payé le prix pour celui qui se repent et qui croit. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la bonne nouvelle de la réconciliation. Et l'évangile change nos relations, je vais vous le démontrer maintenant. L'évangile change nos relations. La relation avec Dieu est restaurée. La relation avec Dieu est restaurée. C'est important, ça faut comprendre. La relation avec Dieu est restaurée. Il répond à nos besoins relationnels les plus profonds. En fait, c'est dans la relation verticale que nous recevons ce dont nous avons besoin relationnellement au plus profond de nous-mêmes. Nous pouvons donc vivre les relations horizontales avec beaucoup plus de sérénité. Beaucoup plus de sérénité. Ce que nous recevons des autres devient alors un encouragement en plus de la réponse à nos besoins comblés par Dieu. C'est comme si vous aviez pu brancher votre robinet à une source d'eau claire et fraîche à haut débit. Ça joue là ? Branché à haut débit, vous ouvrez, vous avez toujours la source à haut débit. Donc après, quand vous allez dans un ruisseau prendre de l'eau, ça vous fait plaisir. Mais vous n'en avez pas besoin pour survivre. Voyons quelques aspects qui sont loin d'être exhaustifs, mais qui permettent de comprendre ce que je veux dire quand l'évangile change les relations. Dans la relation verticale restaurée par le sacrifice de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes aimés tels que nous sommes. Dans cette relation Nous sommes aimés tels que nous sommes. Jésus n'a pas attendu que nous changions pour mourir sur la croix. Il l'a fait pour nous rencontrer où nous sommes. Il nous rencontre où nous sommes, c'est vrai, pour nous transformer. Mais il vient où nous sommes. Nous sommes aimés tels que nous sommes. Deuxièmement, nous sommes compris. C'est tellement important dans la relation d'être compris. Nous sommes compris. Quand nous parlons à Dieu, et même quand nous ne lui parlons pas, il comprend parfaitement ce que nous voulons dire, ou même ce que nous vivons ou ressentons. C'est quand même lui, notre inventeur. Il sait comment nous fonctionnons. Troisième élément, nous avons une valeur inestimable. Nous avons une valeur inestimable. Cette valeur, en fait, il faut bien la comprendre, ça a coûté la vie du Fils de Dieu. En fait, celui qui doute de sa valeur alors qu'il est au bénéfice du don de la vie de Christ doit se rappeler le prix qui a été payé. Le prix d'un être éternel pour un être fini. En fait, le prix était même plus grand que ce que je pourrais dire que je vaux. Nous avons une valeur inestimable pour Dieu. Et quatrième élément, nous sommes toujours accueillis. C'est tellement important dans une relation d'être accueillis. Nous sommes toujours accueillis. Il n'y a pas un seul moment où Dieu ne nous accueille pas lorsque nous allons vers lui. Il n'y a pas un seul moment où on dit « Seigneur, je viens vers toi ». Puis il dit « Ah non, j'ai pas le temps ». Ou bien « T'es qui ? Je te connais pas ». Ou bien « Je t'ai assez vu ». Non, jamais. Nous sommes toujours accueillis. Comprenez cette relation horizontale, verticale. Cette relation verticale. Cela signifie que nous n'avons plus à nous appuyer sur les relations horizontales pour être comblés dans ces domaines. Nous recevons ce qui vient de l'horizontale comme des cadeaux de grande valeur. Et que nous apprécions. Mais l'évangile fait que nous en sommes plus dépendants pour être relationnellement heureux. La personne avec qui je suis en relation me manifeste un amour tel que je suis, eh bien, je le reçois avec reconnaissance, je le chéris. Mais si elle ne me manifeste pas cet amour, je suis triste, mais je ne suis pas dévasté. Car je suis aimé par Dieu tel que je suis. La personne avec qui je suis en relation me manifeste de la compréhension, mais j'en suis reconnaissant. Reconnaissant de pouvoir me confier à quelqu'un qui me comprend. Mais s'il ne me comprend pas, je suis triste, c'est vrai. Mais je ne suis pas dévasté. Parce que Dieu me comprend. Encore mieux même que je me comprends d'ailleurs. Je crois que vous avez compris gentiment, j'espère, que l'évangile restaure la relation verticale avec Dieu de telle manière que si les relations horizontales avec les autres sont décevantes, je ne suis pas dévasté, mais je trouve ma paix en Dieu. L'évangile change vraiment les relations, mes frères et sœurs. Comme nous sommes encore dans un monde déchu et que le péché est encore présent, les relations horizontales prennent du temps. Et Jackel Crow, dans son livre, indique deux facettes du problème de l'idolâtrie dans les relations, qui touchent particulièrement les relations horizontales. Le premier, c'est l'idolâtrie des autres. C'est-à-dire avoir que les autres soient notre idole. L'idolâtrie des autres mène à des relations où nous faisons abusivement confiance à des personnes car nous plaçons en eux tout notre espoir pour combler nos besoins relationnels. Ça, c'est l'idolâtrie des autres. Et on nous pousse dans ce monde à avoir confiance à des gens, à des personnes. L'idolâtrie des autres mène à des relations où nous faisons abusivement confiance à des personnes, car nous plaçons en eux tout notre espoir de combler nos besoins relationnels. Or, il est vrai que Dieu manifeste des grâces relationnelles par les personnes qui nous entourent. C'est vrai. Et j'insiste, il ne faut pas du tout négliger ça, c'est important. Mais elles n'ont pas en elles-mêmes le pouvoir de nous combler. L'Évangile nous permet de nous repentir de cette idolâtrie et de ne plus adorer les autres, mais adorer Dieu seul qui peut nous combler et ainsi ne plus avoir des attentes irréalistes envers ceux qui nous entourent. Votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos amis ou frères et sœurs n'ont pas le pouvoir de répondre à tous vos besoins. Ne les idolâtrez pas. Je n'ai pas dit ne les aimez pas. Hein. Vous comprenez la nuance. La deuxième facette, c'est l'idolâtrie de soi. Avant, c'était l'idolâtrie des autres. Mais il y a l'idolâtrie de soi qui pose un grand problème dans ces relations horizontales. Parce que l'idolâtrie de soi mène à des relations où nous exigeons des autres tout ce que nous désirons, pensons être capables nous-mêmes de savoir ce qui nous comble. Vous comprenez, hein? L'idolâtrie de soi, ça mène à des relations où nous exigeons des autres tout ce que nous désirons, pensons être capables à nous-mêmes de savoir ce qui nous comble. Nous sommes le centre et pas Dieu. Ce qui signifie que si quelque chose nous semble avantageux, même si cela est contre Dieu ou porte préjudice aux autres, eh bien nous le voulons. Cette idolâtrie est clairement manifestée par l'orgueil, l'égoïsme ou tant d'autres compères de ces péchés. Il est vrai que Dieu nous donne la grâce d'exprimer nos besoins. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas exprimer nos besoins. Il nous donne cette grâce. Et que souvent, il nous répond par l'intermédiaire de personnes qui nous entourent. C'est vrai. Mais nous n'avons pas à devenir le Dieu de notre vie. L'Évangile, en fait, nous donne la joie d'avoir un objectif clair. Dans toutes nos relations. Quel est cet objectif? Devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus. Et nous devenons plus comme Jésus en vivant sa parole, ce qu'il nous enseigne. En Romains 13:8, par exemple, il nous est dit, écoutez bien ce qui est dit dans Romains 13:8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » S'aimer. Mais comment ? Bon, revenez dans 1 Corinthiens 13. Je vais lire ce texte lentement. C'est un peu notre feuille de route, en fait, de comment vivre nos relations de manière horizontale en suivant le parfait exemple de Jésus-Christ. Vous pouvez penser à Christ en entendant ses paroles et ensuite aussi penser à qu'est-ce que ça signifie dans ma vie. Comment le vivre avec mon frère, ma sœur, mes parents, mon conjoint, mes collègues, mes voisins, etc. Je lirai à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Eh bien, nous demandons la force à Dieu de vivre cette feuille de route dans ses relations horizontales. Christ l'a vécu parfaitement. Vous pouvez reprendre chaque élément. Et Christ nous donne la grâce de chercher en lui ces grâces et cette force pour le vivre. Et lorsque nous ne le vivons pas, ne fuyons pas. Allons vers notre Seigneur Jésus-Christ déposer ce fardeau. Et il nous pardonne et nous permet de reprendre la route. Après avoir vu que Dieu nous a créés relationnels, mais que les relations étaient troublées, voire coupées par le péché, nous venons de voir quelques éléments de la transformation de l'Évangile qui rétablit la relation verticale avec Dieu, qui nous comble et restaure petit à petit les relations horizontales lorsque nous quittons l'idolâtrie et suivons le divin modèle de Jésus. Et comme Jacquel, dans son livre, nous fait réfléchir aux différents types de relations que nous avons, puis j'aimerais le faire aussi avec vous dans notre troisième point où nous allons chercher à voir comment vivre nos relations selon l'Évangile. Nos relations selon l'Évangile. La première que j'aimerais toucher, c'est nos relations avec nos parents. La relation avec les parents est la première relation que nous rencontrons dans notre vie. Ça, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a mis cela en place. Et Dieu a mis cette relation en place qui est censée être le modèle de la relation avec Dieu. Waouh! C'est pourquoi les parents sont appelés à éduquer, conduire et enseigner en aimant et sans irriter, comme Dieu. Et les enfants sont appelés à obéir et respecter en aimant, comme l'Église envers Jésus-Christ. Et voici cinq conseils pour vivre selon l'Évangile avec tes parents. Là, je les reprends du livre et je trouve intéressant. Et pour ceux qui sont adultes et qui ont des parents encore, c'est toujours valable. La forme change un peu, mais les éléments restent. La première chose, apprends de la sagesse de tes parents. Apprends de la sagesse de tes parents. En fait, c'est Dieu qui les a choisis pour toi tout au long de ta vie. Et tout au long de ta vie, tu peux apprendre quelque chose de leur part, en sachant que la sagesse vient, pas des parents, mais de Dieu. Et qu'eux aussi ont à l'apprendre, évidemment. Apprends de la sagesse de tes parents. Même si vous avez des sujets où vous êtes beaucoup plus loin. Bon, ben ça sera peut-être vous qui allez leur donner certaines choses. Mais vous avez toujours à apprendre. Lorsqu'on est prêt à apprendre, on peut toujours apprendre. Deuxième élément, soumets-toi à l'autorité de tes parents. Soumets-toi à l'autorité de tes parents. Pourquoi ? Je vais vous donner la raison de base. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, la raison de base. C'est bien de leur faire plaisir, mais ce n'est pas ça. C'est ta manière de t'exercer à te soumettre à Dieu. C'est ta manière de t'exercer à te soumettre à Dieu. Parce que si tu ne sais pas te soumettre à l'autorité de tes parents, tu ne sais pas te soumettre à Dieu. Ni aux autres autorités que Dieu aurait instituées. Alors évidemment que les parents sont aussi sous l'autorité de Dieu. Hein, et ne peuvent pas demander n'importe quoi. Parce que s'ils demandent n'importe quoi, ils ne seraient pas des modèles de soumission verticale. Troisième point. Bon, là, les jeunes vont me regarder de travers. Et puis plus tard, ils vont me regarder droit en me disant c'est vrai. Laisse-toi corriger par tes parents. Laisse-toi corriger par tes parents. La correction est difficile pour les deux parties, mais elle rend plus sage celui qui le reçoit. Comment voulez-vous être capable de recevoir une correction de Dieu si vous n'êtes pas capable de recevoir une petite correction de vos parents? celui qui cherche à être corrigé cherche à grandir en fait. S'il te plaît, montre-moi si je ne suis pas sur une bonne voie. C'est ça la correction. Quatrième élément, sois reconnaissant pour leurs soins. Sois reconnaissant pour leurs soins. La motivation là derrière, commence à la comprendre. C'est la même pour que pour la soumission. C'est un moyen d'exercer ta relation verticale avec Dieu. Comment peux-tu être reconnaissant envers Dieu si tu ne l'es pas envers tes parents? Comment tu peux être reconnaissant envers Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas reconnaissant avec tes parents que tu vois? Cinquième élément, traite-les avec une sincère gentillesse. Traite-les avec une sincère gentillesse. Tes parents sont aussi des êtres humains, avec leur personnalité, leur force, leur faiblesse, leurs préférences. Traiter avec gentillesse ne veut pas dire ignorer les fautes, mais les aborder avec amour en cherchant le bien. L'Évangile change la relation avec les parents, car nous savons que Dieu, notre Père, prend soin de nous et nous pouvons nous exercer à l'aimer en retour en aimant nos parents. Deuxième type de relation, les relations entre frères et sœurs. Bon, j'aime bien ce que dit Jacquel, je vous la cite. Les frères et sœurs, quel étrange phénomène, n'est-ce pas? Ce sont souvent les personnes que tu aimes le plus au monde, mais aussi celles qui t'agacent le plus au monde. L'Évangile change nos relations avec nos frères et sœurs. Quand je dis frères et sœurs, que ce soit ceux qui vivent dans la même maison ou dans la même église. Nous avons déjà parlé d'ailleurs, quand on a parlé que l'Évangile change notre communauté, que la façon de vivre entre frères et sœurs dans nos maisons influence notre façon de vivre avec nos frères et sœurs dans l'église. Et inversement. Donc je ne vais pas maintenant beaucoup développer ce point-là. Simplement souligner, on a lu un texte dans Jean 13, 34, 35 tout à l'heure. Vous vous souvenez ce texte? Quand Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comment ça suit après? Comme je vous ai aimé. En fait, l'amour entre frères et sœurs dans la foi est un amour supérieur. Toutes les autres fois, il dit, ben, aime ton prochain comme toi-même. On a vu les deux commandements. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Bon. C'est bien. Mais comme Jésus. Waouh. C'est beaucoup plus. C'est un amour totalement sacrificiel. Mais je ne soulignerai qu'une chose quant au changement qu'apporte l'Évangile dans les relations entre frères et sœurs, c'est ceci, c'est l'humilité et rechercher l'intérêt de l'autre. Voilà ce que l'Évangile change. Je n'ai pas assez de temps pour tout développer, c'est pour ça que je vais un peu vite ici, mais réfléchissez à ça, l'Évangile change notre façon d'être avec nos frères et sœurs dans la maison ou dans l'église. Par l'humilité, la recherche de l'intérêt de l'autre. Hein, motivé par le fait que notre gloire, nous l'avons en Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de faire les orgueilleux. Vous pouvez rester le plus humble possible et vous avez déjà la gloire. C'est fantastique. Nous l'avons en Christ. Il n'y a pas besoin de la chercher en se mettant en avant. Nous l'avons en Christ. Et nous recevons de sa part ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous pouvons mettre les intérêts des autres avant nous. Parce qu'on sait qu'il va prendre soin de nous. Et le texte de Philippiens est très fort. Je vous le lis, Philippiens 2, 3 et 4. C'est une injonction qui nous dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et j'aimerais mettre au défi les jeunes, particulièrement qui vivent encore à la maison avec leurs frères et sœurs, de relire ce texte de Philippiens 2, 3 et 4 et de l'appliquer avec eux. L'Évangile change nos relations avec nos frères et sœurs. car nous savons que c'est Dieu qui les a placés à côté de vous. Vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs. Ben vous savez quoi ? Dieu, oui. C'est lui qui les a choisis. On n'a pas choisi qui était frère et sœur dans l'église qu'on fréquente. Eh non. Tu n'as pas été tiré les gens. Toi, tu viens. Toi, tu... Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui construit son église. Parce que c'est exactement ces frères et sœurs que vous, que moi, avons besoin. Troisième type de relation, les relations amicales. Les relations amicales se font et se défont en lien avec nos occupations et nos lieux de vie. Certaines amitiés ne durent que peu de temps. Même si nous vivons pendant longtemps dans un club de sport, par exemple, ben, on s'arrête et puis les amitiés s'arrêtent. Il n'y a pas de problème, mais simplement ça s'arrête. Mais il y a d'autres amitiés. On fait un camp d'une semaine et elles durent toute une vie. Les amitiés. Une amitié se construit. Et dans notre société, nous voulons tout obtenir rapidement. Nous voulons tout de suite, surtout pour des frivolités. On a l'impression que pour des amitiés, il suffit de mettre une fois deux likes et la relation est très profonde. Enfin, trois, c'est encore plus profond. C'est pas ainsi que ça fonctionne. Ce n'est pas ainsi. L'évangile amène à la parole qui a beaucoup à nous enseigner concernant les amitiés, particulièrement le livre des Proverbes. On peut juste penser à l'amitié et lire tous les Proverbes. Alors j'aimerais vous donner une liste de 10 caractéristiques, assez rapides, mais tous tirés des proverbes, d'amis, de types d'amis à chercher et à être. Premier, c'est donc chercher des amis et être ami de ce sens-là, hein, donc être juste et bon, chercher la justice, qui aime être avec les sages, être animé d'un amour inconditionnel. On cherche quelqu'un, et nous-mêmes être animés, chercher des gens qui sont animés d'un amour inconditionnel. Être proche et fidèle. Même quand ça ne va pas très bien, continue à être ami. Être accepté d'être enseigné. Ben oui, il peut m'apprendre quelque chose. J'ai l'impression que je sais plus de choses, puis alors, il peut m'apprendre quelque chose. Je peux aussi lui donner quelque chose. Être raisonnable et capable de se contrôler. Voilà, il y a mille choses, particulièrement les paroles peut-être. Être honnête. Chercher des amis honnêtes ou être un ami honnête. Être digne de confiance. Et la confiance, vous savez, elle se construit. Et si vous dites quelque chose à un ami de secret et qu'il va le dire à quelqu'un d'autre, la confiance diminue. Il faut la reconstruire. Ou si vous demandez quelque chose à un ami qu'il ne le fait pas, la confiance diminue. Il faut la reconstruire. Être digne de confiance. Et dernier élément, être édifiant. C'est-à-dire chercher à ce que lorsque l'on est ensemble, on se tire en avant. On se tire en haut, pas en bas, si vous voulez prendre ces expressions-là. Et les amitiés qui s'appuient sur la Bible, des personnes avec qui partager sa foi, ses peines, ses doutes, quelqu'un dit que c'est comme du chocolat. C'est bon. Et c'est doux. Et ces amitiés transforment les chrétiens en disciples de Jésus de plus en plus forts, plus sages et plus joyeux. Et si tu as de telles amitiés, c'est un cadeau inestimable. Sois reconnaissant pour chacune d'elles, chéris-les. Et le dernier type de relation que j'aimerais aborder assez rapidement, c'est la relation avec l'autre sexe. L'évangile transforme nos relations envers l'autre sexe. Et nous, en nous mettant à cœur et dans notre cœur un terme qui est court, mais qui n'a généralement plus cours dans notre société. La pureté. La pureté. L'évangile nous pousse non pas à chercher seulement notre propre pureté, mais aussi celle des autres. Et les filles qui veulent refléter l'évangile ne porteront pas d'habits qui n'aident pas les garçons à rester dans la pureté. Et les garçons n'auront pas de paroles ou de gestes envoûtants qui n'aident pas les filles à rester dans la pureté. Si jamais les gars, bon les filles aussi, vous pouvez transformé pour vous. Regardez 1 Timothée 5:2, où Paul demande à Timothée, au jeune Timothée, à traiter les jeunes filles comme des sœurs en toute pureté. Timothée devait traiter les jeunes filles comme des sœurs en toute pureté. La pureté commence où ? Dans la pensée. Connaissez le meilleur filtre biblique ? Philippiens 4:8. Je ne vais pas vous le lire maintenant, c'est le suspense que vous pouvez aller voir à la maison. Philippiens 4:8, votre filtre de pensée. Et rappelez-vous, nous débordons toujours de ce que nous remplissons. Nous débordons toujours de ce que nous nous remplissons. Vous voulez vivre une vie pure dans vos pensées ? Ben, remplissez-les pas de choses impures. L'Église est un lieu fréquenté par des chrétiens, des personnes intéressées par l'Évangile. Nous devons donc pouvoir avoir des relations saines entre gars et filles, entre hommes et femmes, sans avoir des arrière-pensées. Et sans même, parmi les jeunes, commencer à dire qui aime qui, etc. Non, on veut des relations saines et bonnes, c'est tellement important dans le cadre de l'Église aussi. L'Évangile change vraiment les relations. Cela change d'ailleurs aussi nos relations entre générations. Pas besoin d'être avec des gens du même âge pour être bien, mais avec des gens qui ont le même esprit. C'est aussi vrai dans les relations entre les personnes de diverses provenances, de divers milieux, de diverses capacités. L'Évangile change vraiment toutes les relations, car notre relation verticale avec Dieu nous unit et les relations horizontales les uns avec les autres nous construisent et nous font grandir. En conclusion, soulignons que Christ a accepté, et ça c'est quelque chose qui souvent me fait réfléchir, c'est un mystère, je vais vous donner un mystère là, mais c'est vraiment profond. Christ a accepté que sa relation avec Dieu soit rompue pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Et se détourner de Jésus, c'est se détourner de Dieu. Je n'ai pas abordé l'artisan de paix durant toute la prédication jusqu'à maintenant. Mais quand on parle de relations, je ne peux pas terminer sans vous encourager, vous stimuler à revenir à ces enseignements si importants sur la gestion des relations basées sur l'Évangile. Et j'aimerais terminer par la lecture d'une prière qui est maintenant venue très connue et qui manifeste les relations portées par l'Évangile. Et ce sera notre prière de conclusion. Alors prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que j'amène ton amour. Là où il y a l'offense, que j'amène ton pardon. Là où il y a la discorde, que j'amène ton unité. Là où il y a l'erreur, que j'amène ta vérité. Là où il y a le doute, que j'amène ta foi. Là où il y a le désespoir, que j'amène ton espérance. Là où il y a les ténèbres, que j'amène ta lumière. Là où il y a la tristesse, que j'amène ta joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. C'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite. Oui, l'Évangile change vraiment tout. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.